l'Orphéon à Lourdes.
Voilà, j'ai fait beaucoup de recherches donc dans les archives municipales, dans les archives départementales surtout aussi, et beaucoup dans la presse, qui est assez difficile des fois d'ailleurs à compulser à l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup d'instabilité. Donc y a eu la voix de Lourdes, l'écho de Lourdes, le journal du Lavedan, enfin ça a beaucoup bougé. Puis on a beaucoup de carences dans les archives, malheureusement. Mais enfin, j'ai retrouvé effectivement des articles très précis sur la création du premier Orphéon de Lourdes en 1864, qui s'est fait un peu dans la mouvance du premier concours d'Orphéon qui avait été organisé dans la ville de Tarbes en 1860. Et il y a eu plusieurs tentatives avant 1864, mais le moment vraiment officiel où le maire, M. Lacadet, a formé le premier Orphéon de Lourdes, c'est en 1864, effectivement.
Alors, si on se replonge dans le passé, à l'époque, il n'y a pas de joute sportive. Le sport n'est pas encore démocratique. Donc effectivement, quand les villes sont rencontrées, c'est à travers le champ.
Voilà, donc là on saute un peu sur un autre aspect. Juste encore une petite chose, oui, sur l'Orphéon de 1864, pour reparler de cette question de la culture populaire. Qui étaient les chanteurs de l'Orphéon de Lourdes en 1864? On a retrouvé même les noms, j'ai même chacun des noms.
Ils étaient combien?
Ils ont signé une quarantaine. Ah. C'était tous de jeunes ouvriers, tailleurs de pierre ou ardoisiers. Mmh. Donc c'est vraiment le milieu ouvrier. Hein, l'Orphéon, il y a une chose qui poursuit toute l'histoire de l'Orphéon, c'est vraiment aussi la promotion du monde ouvrier, du monde des travailleurs, du monde des gens simples. Voilà. Donc après, il y a eu des croisements avec le monde pastoral à l'époque plus tardive, qui fait qu'on en est arrivé aux chanteurs montagnards. Mais il y a aussi tout cet aspect ouvrier qui est important à souligner. Et donc, effectivement, à cette époque-là, ces groupes se produisaient lors de concours. Donc j'ai évoqué le concours de Tarbes de 1860, oui, qui était en fait des manifestations où on faisait venir de différents endroits, soit du département, soit de la région, soit de la France entière, pour concourir dans une organisation très précise. Il y avait une première division, deuxième division, troisième division. Alors on était classé par division. Selon les résultats au concours, on avait des résultats dits ascendants, c'est-à-dire qu'on changeait de catégorie. Exactement comme ça se passe dans les clubs sportifs. Je pense que la matrice d'ailleurs des est là. Je pense que on retrouverait, il y aurait des choses intéressantes.
La hiérarchie un petit peu de ça. Oui, oui. Donc à l'époque, effectivement, parce qu'on a toujours aimé s'affronter entre villes, on était un peu chauvin.
Ah, oui, oui.
Et donc ça, voilà, là c'était pas le sport, c'était pas du foot, c'est pas le rugby, c'est pas le basket, c'était le champ.
Ouais. C'est extraordinaire de penser ça, hein, parce que c'était vraiment sur tout le territoire français. Et alors en 1869, les Lourdais sont partis au concours d'Orthez. Et là, ils ont eu un beau succès d'estime et ils en sont revenus gonflés à bloc. Effectivement, c'était vraiment. Et alors, il faut lire les critiques de l'époque, c'est savoureux, quoi.
64-69, ça fait très peu d'années pour avoir un prix déjà.
Ah oui, mais ils s'étaient présentés aussi donc Donc ils ont été créés en 64, un peu en se disant, 1864, hein, en se disant, mais Cauterets y est allé, Luce y sont allés, Bagnères y sont allés, à Tarbes il y avait tout le monde, mais Lourdes on n'avait personne. Donc ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, on crée l'Orphéon de Lourdes. Ils se représentent au concours de Tarbes en 1867, et là ils reviennent sans rien du tout, hein, forcément, c'est trois premières années de travail, ils sont revenus sans prix, ils étaient un petit peu déçus. Changement de chef à ce moment-là. On quitte.
C'est comme les entraîneurs, hein. Il y a un parallèle avec le sport, là.
C'est terrible. Voilà, le chef écœuré, on change de chef. Et alors là, on se dit, non, on peut plus continuer comme ça. On prend un vrai professionnel. Et là, on fait appel à qui? Au premier organiste titulaire de la grotte de Lourdes, monsieur Adolphe Dargin, un vrai professionnel qu'on a à Lourdes. Et donc, on va lui demander de s'occuper de l'Orphéon, de remettre l'Orphéon sur pied. Et donc, quand on se présente en 69, effectivement, on constate les progrès magnifiques qui ont été opérés par cet Orphéon. Voilà. Et bon, ça va continuer comme ça, ces concours. Les Lourdais sont allés après à Toulon en 1905, à Paris en 1906, à Paris en 1912, à Bayonne, j'ai oublié, en 1903 ou 4, en 1908 c'était à Pau, ils sont allés à Oran, enfin ils ont...
Il faut imaginer dans le contexte,
mais
déplacer 40, 50 ou 60 bonhommes à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, hein.
Mais, 1912, ils sont partis les Lourdais. En 1912, c'était l'Union Montagnarde du Lavedan, qu'elle s'appelait la société à ce moment-là. Ils sont partis à 80 quand même. Il faut s'imaginer le voyage. Hein.
Oui.
Et ils ont chanté à Paris dans un concours qui réunissait 177 sociétés. 177 sociétés, dont des sociétés qui venaient de Prague, de Londres, de Berlin, de Suisse, de Zurich. Donc il y avait donc ça, c'était pas la première division, hein, quand même, il faut le dire. Au-dessus de la première division, il y avait la division supérieure avec les grands clubs. Enfin, vous voyez.
Oui, comme quoi, il y a le parallèle.
Avec les grands orphéons nationaux. Ouais. Et puis après, l'échelon international, c'était la division d'excellence. Voilà. Et donc récompensé par le président de la République à l'époque, pour voir à quel point aussi c'était valorisé dans la culture nationale, quoi. Hein. Mm-hmm. Je veux dire, le président Falière aux Champs-Élysées qui récompense les groupes lauréats du concours d'Orphéon de 1912. Où il y avait nos chers amis Lourdes qui étaient là, qui ont assisté et qui ont fait tout le défilé depuis les Tuileries jusqu'à la Bastille en passant devant hein, il faut s'imaginer ça, ouais. Ces 177 sociétés dont nos 80 Lourdes qui ont participé à cette opération.
Vous me disiez, hors antenne, même si on va être latiné deux ou trois personnes, vous me disiez que vous avez été voir nos élus, hein, nos chers élus, que ce soit au département, à la région. Tout ça, personne ne le connaît.
Mais non, mais ça c'est normal. Je veux dire, moi-même, je suis professeur d'éducation musicale. Quand je parle de ça à mes collègues, on a complètement oublié. Je pense que
alors c'est fou ça d'oublier ça. C'est l'ancêtre, ouais, du sport, c'est l'ancêtre.
Mais oui, oui.
On voit quand même quand on à la télé, il y avait les jeux intervilles là sur la télé. On voyait quand même la fierté de chaque ville
de
à travers des jeux qui sont sympathiques. Mais on voit et aujourd'hui tout ça a disparu.
Ça a disparu progressivement. Je pense que donc il y a eu les derniers grands concours, c'était 1931, 1932, 1933, et après guerre, le mouvement ne s'est pas remonté comme mouvement orphéonique. Après donc ces sociétés là qui sont restées, les quelques-unes qui sont restées du côté Bigorre, se sont affiliées aux fédérations de folklore. C'est après les fédérations de folklore qui ont récupéré, je dirais, un peu l'énergie, après guerre. Hein. Mais donc ce mouvement orphéonique effectivement a été complètement. Alors est-ce qu'il a été oublié? Est-ce qu'il a été occulté? Il y a des gens qui disent que par moment aussi on a un petit peu voulu, parce qu'il faut penser que 1864 par exemple, là où le mouvement s'est beaucoup développé, c'était le Second Empire. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des moments où on a voulu un peu oublier le Second Empire, on a trouvé que c'était une période qui n'était pas vraiment républicaine. Enfin, alors après moi je ne suis pas historien, je ne peux pas rentrer dans ces considérations là, mais c'est vrai que de toute façon c'est un mouvement c'est toute une histoire qui a été complètement oubliée, mais dont je pense qu'on comprend mieux après certaines choses qui sont restées, en particulier dans nos sociétés bigourdanes, qui sont vraiment restées très vigoureuses et qui ont duré, qui ont assuré une continuité jusqu'à nos jours, quoi.
Laurent Chenon, on marque une pause dans cette émission Le Grand Témoin. On se retrouve dans quelques minutes, quelques secondes, pour continuer cet échange, parler de ce beau spectacle, d'ailleurs dont on n'a pas donné le nom. Est-ce que vous avez donné un nom à ce spectacle?
Alors, je crois que finalement, je lui ai donné pour l'instant un nom provisoire, Lourdes au Salut, d'après un chant qui a été récupéré justement d'un compositeur toulousain, qui était un grand compositeur d'opéra, directeur du Conservatoire de Toulouse. On a récupéré sa chanson qui s'appelait La Toulousaine, on en a fait Lourdes au Salut. Alors, comme hommage donc à ce chant et puis à ce mouvement finalement d'identité locale et puis de plaisir de cultiver la culture de sa ville, on va peut-être l'appeler Lourdes au Salut, mais c'est le 150e du chant orphéonique à Lourdes.
Très bien. Voilà. Laurent Chenon, on se retrouve dans quelques instants.
Présence.
Le Grand Témoin.
Notre invité, notre grand témoin cette semaine, c'est Laurent Chenon. Vous êtes le chef de chœur du groupe, du chœur d'hommes. Comment on appelle ça d'ailleurs aujourd'hui? Comment voulez-vous qu'on vous appelle? Un chœur d'hommes?
Alors,
un groupe?
Eh oui, les appellations. Alors par exemple...
Parce que ça vexe, par exemple, si j'ai une chorale, ça vexe.
Ah non, ils n'aiment pas ça. Non, c'est pas une chorale.
Voilà.
Non, ils n'aiment pas ça. Être appelé choriste non plus, ça leur plaît pas. C'est des chanteurs. Alors, on dit soit les chanteurs... ou les chanteurs montagnards, ou alors les anciens encore, ils ont beaucoup gardé ça qui vient alors vraiment du 19e siècle, hein, c'est la société.
La société.
C'est la société.
Et parce alors la société, oui, le monde associatif,
une fois qu'on y rentre dans cette société qu'ils appellent la société, on n'en sort presque plus. Jeannot Sarry, qui l'appelait ça la société, il y restait quand même 55 ans. Et jusqu'à son dernier jour, il a fait partie de la société. Et c'est comme ça que les journalistes qualifient les orphéons, etc., la société de nos chanteurs lourdais, ça date de...
Alors, la société des chanteurs montagnards de Lourdes, voilà Laurent Chenon, et ça fait plus de 20 ans, vous nous l'avez dit au début de cet entretien, que vous les dirigez avec, je crois, un énorme plaisir.
Oui, c'est vrai.
Nouveau challenge pour ceux qui viendraient de venir nous rejoindre. Un nouveau challenge, je disais, c'est un spectacle musical dont on ne sait pas trop comment on va appeler spectacle création, sur l'histoire, en fait, des chanteurs montagnards de Lourdes depuis la création... 1864-2014, 150e anniversaire cette année, et vous voulez le faire avec beaucoup de succès à travers un spectacle. Alors là, vous avez fait un challenge, parce qu'on sait que les chanteurs montagnards chantent.
Oui.
Vous les faites chanter. Oui. Ils sont en concert et ils chantent, oui, d'ailleurs remarquablement bien. Mais là, ils vont devenir acteurs, entre parenthèses.
Ils vont devenir acteurs. Il va falloir qu'ils apprennent du texte, qu'ils distribuent du texte, qu'ils évoluent sur scène, qu'ils fassent de temps en temps verser une petite larme par leurs paroles, ou bien que par leurs gestes et la mise en scène de Violette, ils nous amènent au rire.
Ouais.
Hein, parce que ça, le rire, c'était une chose aussi très importante dans les sociétés. Bon, en 1908, 1910, quand on lit les critiques de l'époque, on voit un public hilar, mais au bord de l'explosion. Donc, ils ont toujours aimé faire rire. Et ce rire, ce plaisir du rire, d'ailleurs, existe toujours dans le groupe. Il n'y a pas une répétition où on ne rigole pas. Il n'y a pas une occasion de rire qui soit loupée par un chanteur ou l'autre. Donc, c'est un peu aussi, je trouve, la galéjade dans la...
C'est votre ciment, un peu, quelque part, aussi.
Oui, oui, oui. Donc, il faudrait aussi qu'on soit capable d'extérioriser ça. Voilà. Que pour l'instant, on ne fait pas à travers le chant.
Alors, ce spectacle, vous l'avez un petit peu dit, hein, on n'a pas de grand théâtre, on n'a pas de grande salle de spectacle dans notre région, ou tout du moins dans la ville de Lourdes. Donc, la technique va être là pour vous aider. Et vous avez fait appel à un grand professionnel, voilà, qui est Philippe
Cabidoche, voilà, qui va nous faire une création originale, vidéo. Donc, on va essayer de mettre les gens effectivement dans une même situation que si on était au cinéma ou à l'opéra, c'est-à-dire que on est un spectacle qui s'adresse aux yeux, aux oreilles et puis à la sensibilité entière. Et donc, par exemple, on va évoquer des moments de la vie de ce groupe-là, où on va, par exemple, je pense à un moment un petit peu émouvant, c'est le 11 novembre 1920, quand les chanteurs vont dans le cimetière de Lourdes. Il y a une très belle description du journaliste de l'époque qui nous décrit un ciel mauve, les montagnes blanches, un air tout d'un coup un petit peu curieux, un ciel soufré, et puis les gens qui évoluent là, les larmes qui éclatent, et puis tout d'un coup cette cantate créée par... composée par le directeur de l'époque, Charles Boyer, qui éclate « Debout les morts ». Et voilà. Donc, on va, au lieu de chanter uniquement le chant, ce qu'on est capable de faire, on va essayer de nous plonger dans cette ambiance, voilà, de reproduire l'environnement de ça pour mettre les gens vraiment dans une émotion.
Alors,
à la hauteur de l'événement.
Voilà, en fait, c'est suite à toute cette idée et suite à un mémoire que vous avez fait, où vous nous avez largement parlé dans la première partie de cet entretien. Comment, quand vous l'avez vendu aux chanteurs, à vos chanteurs, comment ont-ils réagi quand vous leur avez dit, bon, ben, vous allez faire un peu de théâtre, vous allez faire des scènes, des... Parce que chanter, ça veut le faire,
bien,
ils y prennent
bien
plaisir.
Sûr,
mais...
Bien sûr. Alors, bon, il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a effectivement la peur de l'inconnu. Hein, ça, forcément, on est un petit peu la peur de l'inconnu. Puis après, de se dire, mais est-ce que c'est pas un peu gonflé? Est-ce qu'on va pas... Est-ce qu'on en est capable? Et puis après, dès que les premières répétitions ont commencé, enfin, moi, il y a une chose qui est très simple, c'est que les répétitions où on fait que musique... Ben, on a l'assistance habituelle, c'est-à-dire que les gens viennent plus ou moins régulièrement aux répétitions, c'est normal, ils sont assidus, des fois plus ou moins, mais alors les répétitions de théâtre, tout le monde est là et à l'heure. Hein. Je vous promets que là, donc il y a quand même un engouement, il y a un plaisir certain à jouer. Après, effectivement, avec une petite angoisse, un petit pincement au cœur, on se dit, mais il y a rien de plus beau que ça, non, de se dire, c'est pas gagné d'avance, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais ça vaut le coup de se lancer dans cette aventure.
Alors, sans vouloir trop aller dans l'intimité du groupe, hein, nous dévoiler l'intimité, ça fait déjà 3 mois que vous répétez, comment ça se passe?
Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où on fait une nouvelle activité comme du théâtre, on n'a pas commencé à réciter le texte du spectacle pour commencer. On a commencé par faire un peu des exercices préparatoires, enfin, d'apprendre un peu le béaba de certaines pratiques du théâtre. Et je crois que les gars se régalent, vraiment se régalent et se révèlent. On a des acteurs en puissance dans le groupe, mais vraiment... Et donc, il y a ce plaisir... dans un groupe, c'est toujours très, très, très plaisant quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui fait une performance devant tout le monde comme ça, qui nous éblouit, qui nous épate. Puis on se dit, mais je ne savais pas qu'il était capable de ça. Et puis avec des gens, on a pris quelques fous rires aussi qui nous ont fait beaucoup de bien.
Vous les avez découverts différemment ? 20 ans que vous les dirigez, ce nouveau challenge, vous les découvrez différemment? Vous les voyez d'un autre regard aujourd'hui?
Il y a des gens qui se révèlent.
Parce que peut-être qu'ils vont nous écouter.
Il y a des gens qui se révèlent, dont je dirais, on n'a jamais... je les ai jamais sous-estimés. Hein. Je pensais effectivement, je suis pas quelque part, je suis pas étonné, parce que bon, on vit aussi au quotidien ensemble quand on fait des voyages, quand on fait quand on fait des voyages. Donc on va retransmettre peut-être des choses que on ne transmettait pas dans le concert parce qu'on restait dans une posture assez sérieuse, juste le concert. Quatre voix bien sérieux, donc mais qu'on avait aussi dans les troisièmes, ce qu'on appelle les troisièmes mi-temps, ou bien qu'on avait dans les rentrées en bus et tout ça, une joie de vivre et puis un plaisir à s'amuser de tout qui porte le groupe aussi, quoi, le plaisir du vivre ensemble, hein, le plaisir du vivre ensemble, que ça j'ai toujours connu dans le groupe, qui fait que les gars qui y rentrent ont envie d'y rester et que moi j'ai résisté pendant 20 ans, quoi.
Oui, parce que des fois, ils vous charrient,
Non, mais c'est le poids de. Bah, par exemple, moi, je suis sur Lourdes, je fais chaque fois une heure de route pour venir, deux heures de répétition, une heure de route pour revenir. Puis ça fait plusieurs années que je me disais, bon, ben, un jour, il faudra que j'arrête parce que c'est épuisant, quoi. Et puis non, j'arrête pas, quoi.
Voilà. C'est votre famille aussi un peu ?
Un peu, je crois. Hein. C'est devenu quand même, c'est quand même une affaire familiale. Et ça, c'est une des valeurs de ces orphéons-là, hein, qui est quand même de ce mouvement orphéonique, qui était effectivement de créer un ciment social entre les individus. Enfin, cette espèce d'ambition démocratique du vivre ensemble, quoi. Hein, où les rôles sont complètement. Il n'y a plus de hiérarchie comme dans la vie civile, on est là en famille, effectivement.
Alors, résumé, 1864-2014, 150 ans à un spectacle. Combien va-t-il durer ? Vous qui êtes un grand bavard, vous avez dû rayer des parties.
Oh là là, quoi.
Ça doit être mortel pour vous. Ça
c'est pénible. Ça c'est pénible de ramener à quelques bribes des choses. Et on a toujours l'impression qu'on va pas être compris du coup,
hein,
parce que on est obligé d'en rester à des petites touches, quoi. Et donc on peut pas dire ni tout, ni chaque fois qu'on commence à parler de quelque chose, de pouvoir le dire d'une façon qui nous paraisse suffisamment exhaustive pour être compréhensible. Donc ça va être plutôt une sensibilisation, quoi. Mais si l'objectif du spectacle, c'est que les gens se disent « Ah, je savais pas qu'il y avait toute cette profondeur historique, toute cette diversité dans les répertoires, parce qu'on va pas chanter uniquement justement que Montagne-Pyrénées ou les choses dont on sait que c'est à notre répertoire, mais des choses qui ont été dans les répertoires précédents, comme beaucoup d'œuvres classiques, des œuvres des chansonniers du 19e siècle. Bon, je pense à La Garonne de Gustave Nadeau, qui est un morceau de bravoure extraordinaire, mais pour soliste et piano, et qui va être chanté par un de nos chanteurs avec, j'espère, beaucoup d'efficacité humoristique. Bon, il va y avoir beaucoup de choses, c'est vrai que tout va être un peu survolé, mais bon.
Ouais. Quel est l'équilibre alors dans ce spectacle entre la partie théâtrale et la partie chant ?
Alors, il y a des chants qui vont être entre guillemets un peu sacrifiés parce que ils vont servir uniquement à illustrer le propos, donc on va en chanter peut-être juste quelques bribes ou un couplet ou un extrait. Et puis, il y a certains chants qui nous paraissent plus importants et qui vont être cette fois-ci interprétés comme si on était vraiment au concert d'une façon complète. Et donc, on va être accompagné par des musiciens, une pianiste qui va nous venir, Aurélie Samani, qui est pianiste au Conservatoire de Pau. On va voir le quintet des Pyrénées, et donc Jeannot Humbert et ses acolytes qui vont nous accompagner aussi sur un certain nombre de chants. Donc, je pense que ça va être très beau. Et puis, on va avoir, j'espère, ça, c'est pas encore réalisé, mais on est en train de le réaliser, donc avec Jean-Paul Léco. À un moment donné, on va faire une évocation de l'église Saint-Pierre de Lourdes. On va se projeter en 1869. Et comme on a gardé le retable au musée pyrénéen de Lourdes, on a gardé le retable de cette
l'ancienne église.
Oui. Philippe Cavidoche va essayer de nous faire le prodige de nous reconstituer spatialement, grâce à la vidéo, l'ambiance de cette église de 1865. Et puis, avec une bande-son, on va enregistrer Jean-Paul Léco. Et on va reproduire un des chants qui avait été chanté à cette époque-là, le Panis Angelicus de César Franck. Et donc on va essayer de nous replonger dans cette ambiance des tailleurs de pierre de l'époque qui chantaient cette magnifique œuvre de César Franck.
Vous avez écrit ce mémoire, vous avez beaucoup passé de temps, vous l'avez bien sûr, comment on dit d'ailleurs, vous l'avez soutenu. Vous avez ce projet aujourd'hui, vous êtes en train de un peu, tout ce travail de recherche que vous avez fait, vous avez vraiment envie de le, de le répandre et de le partager avec les autres. Ce spectacle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce serait une initiation. Vous souhaiteriez bien sûr qu'à la sortie de ce spectacle, les gens disent « Mais attendez, mais je veux en savoir plus ».
Voilà, c'est ça.
C'est votre idée ?
Voilà, c'est ça. C'est tout à fait l'idée. C'est de communiquer un petit peu, donner un certain nombre d'éléments de communication au public, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte quand même des acteurs locaux, effectivement, on parlait tout à l'heure des responsables politiques que j'ai croisés, qui finalement... ont une idée assez simple, assez réduite. Mais c'est normal, j'avais la même, moi, avant de commencer. Honneur à mon maître de recherche, Luc Charles Dominique, qui m'a encouragé à chercher sur cette voie-là, parce que je ne me doutais pas non plus du tout de toute cette profondeur historique. Et puis, je dirais historique et spatiale, quoi, parce que ça fait intervenir l'Allemagne, la France, le Pays Basque, la Catalogne. Enfin, tout d'un coup, on se sent pas uniquement dans un petit repli identitaire comme ça, entre juste trois petits bergers locaux. Il y a vraiment toute une histoire, toute une historicité là autour qui est très intéressante. Et voilà, que les gens se posent des questions et aient envie d'aller plus loin, ce que je suis en train de faire, puisque je continue, moi, j'essaye d'aller jusqu'à la thèse, donc je continue les recherches pour l'instant. Donc il y a des choses dans mon spectacle qui n'étaient pas encore dans mon mémoire.
Voilà. D'accord. Et parce que vous continuez les recherches.
Voilà, les recherches continuent.
Rapidement, vous allez faire repasser l'Orphéon de Luce en 3-4 ans de la 130e anniversaire au
120e.
120e.
Ils ont fêté le 120e en 2008.
Voilà.
Et en fait, ils se rendent compte qu'en 2017, il faudra qu'ils fêtent le 150e.
150e. Là, c'est un prodige. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Et ça, vous n'aviez pas fait attention dans votre mémoire. Vous aviez retrouvé des traces de l'Orphéon de Luce en 1867.
Parce qu'en réalité, ils ont participé à un concours à Tarbes en 1867 où ils ont été primés, et donc moi je le cite effectivement dans mon mémoire, mais comme j'étais axé sur l'histoire de Lourdes, j'y ai pas pris garde. Et comme actuellement, il faut dire aussi que tout ce mouvement orphonique en Bigorre, je trouve qu'il y a un côté très réjouissant, c'est qu'on communique beaucoup. Et alors donc on s'est retrouvés tous au Pic du Midi avec les chanteurs de Bagnères, de Tarbes, de Luce, d'Argelès et nous-mêmes pour les 180 ans. Donc 1832, des chanteurs montagnards de Bagnères. Et puis là, je les voyais les uns après les autres venir de Luce me dire « Si j'ai bien lu ton mémoire, il me semble qu'à la page... » Et je ne sais plus quelle page il me citait. Et je me disais « Punaise, pourvu que je n'ai pas raconté des âneries, pourvu que je n'ai pas laissé passer une coquille. » Ça m'avait complètement passé à côté de la... Et le soir même, j'ai vérifié. Et effectivement, c'était bien ça. Oui. Les enfants de Barège, Orphéon de Luce, avaient participé au concours de 1867. Et donc... au lieu d'une naissance du groupe de 1888, ce qu'ils avaient repéré, ça leur fait remonter à 1867. Voilà. Et s'ils ont concouru en 1867, ça veut bien dire
qu'ils étaient créés avant.
Ils étaient créés avant.
Mais ils ont retenu cette date, puisqu'ils ont retrouvé dans leur drapeau, là, leur bannière, il y avait des médailles qu'ils ont fait nettoyer.
Mais voilà, alors ça, c'était c'était le plus amusant, c'est que quand je me suis rendu chez eux, ils n'avaient pas conscience qu'ils avaient... chez eux, la preuve de ce qu'ils ne me croyaient pas, parce qu'ils avaient un peu des doutes, ils me disaient, mais attends, on aimerait avoir des preuves supplémentaires, là, ton papier, des archives, je sais pas trop si on peut y faire confiance. Ils mettaient en doute, et pourtant des documents officiels, des archives départementales. Et en fait, ils ont fait nettoyer effectivement leur médaille. Et c'est juste à ce moment-là que je suis allé les rencontrer. Et ils ont regardé ces médailles la première fois avec moi. Et la première médaille sur laquelle on tombe, Tarbes, 1867. Alors, ils n'en revenaient pas. Elles étaient tellement noircies qu'ils ne pouvaient plus lire ni les lieux ni les dates. Et donc, ils avaient la preuve, déjà depuis bien longtemps chez eux, que leur Orphéon datait de bien plus longtemps que ce qu'ils s'imaginaient.
Comme quoi, votre mémoire, oui, il a eu de l'influence au moins sur un groupe local. Et ils nous l'ont raconté avec beaucoup de plaisir lorsqu'ils sont venus nous voir. Et ils vous ont rendu un hommage, vibrant hommage, donc, sur le travail que vous avez fait. Revenons à ce spectacle donc, qui aura lieu, je le rappelle, le 3 et le 4 octobre prochain à l'Espace Robert Rossène, à la salle des fêtes de Lourdes, et puis après vous irez à Tarbes, et puis sûrement à Bagnères-de-Bigorre, et peut-être dans d'autres salles. Revenons, et pour terminer sur ce spectacle, quelle est sa durée?
Je pense que le format, ça va être plutôt 2 heures que
2 heures.
2 heures qu'une heure et demie, j'ai l'impression. Voilà. Oui. On a essayé, c'est vrai, d'écourter au maximum. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on présente certains chants, il y a certains chants qu'on est obligé quand même de faire en entier. On ne va pas frustrer non plus le public. J'ai 18 numéros quand même. D'accord. 18 numéros, et j'ai vraiment qu'est-ce que j'ai fait comme saccage où je me suis dit ça, il faudrait quand même que je le mais non, on va pas faire vous imaginez 150 ans dans un spectacle,
dans 150 ans vous referez le deuxième volet, la partie 2.
Voilà. Non, je pense que ce sera plutôt un spectacle généreux. Voilà, mais je pense que, enfin, notre ambition c'est que ce soit un spectacle où les gens n'aient pas vu passer le temps, quoi.
Oui, ouais. Je n'en doute pas. On va finir par un avis de recherche que vous allez mettre en place avec la presse locale ou les sites internet locaux, car vous avez retrouvé des archives, vous aimeriez bien retrouver grâce à des vieilles, voilà, photos.
Alors j'aimerais bien faire reparler un petit peu les archives familiales, locales, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait... Alors on parlait des médailles par exemple de Luce, ben nous on ne les a pas retrouvées.
D'accord.
Elle n'existe plus. Au moment de ces concours d'Orphéon aussi, on recevait des diplômes. On les a retrouvés par hasard au fond d'un placard, mais des merveilles, hein. Des merveilles qu'on va réutiliser, je pense, dans le spectacle visuellement. C'est des formats raisins, c'est des très grands formats avec des décors, avec des dessins magnifiques. Ouais. Et puis bon, c'est des
pièces jolies, oui, qui sont propres.
Ouais. Bon, elle nécessite d'être réhabilitée, hein, ouais. Elle nécessite d'être réhabilitée. Donc on verra ça avec le service justement des archives départementales. Je les ai déjà montrées à Monsieur Giustiniani. Et donc ça, on va s'en occuper. Mais on a aussi beaucoup de photos depuis les années 1900 jusqu'à nos jours, où il y a plusieurs couches, si vous voulez, de documents photographiques qu'on ne sait pas toujours très bien interpréter. Pour certaines photos, on a tous les noms des personnages, même en plus de ça, j'aurais bien aimé faire communiquer ça un petit peu au public lourdais, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se dire « Mais tiens, mais attends, là, mais c'était un tonton, ou là, c'était le grand-père, ou là... » Enfin, ils vont reconnaître des gens, et peut-être qu'on aura des remontées de documents photographiques, peut-être d'iconographie, peut-être des remontées de je sais pas, des témoignages. Ah oui, ils avaient fait ci, ils avaient fait ça, ils nous avaient raconté que ceci, que cela, ou son chant préféré, c'était ceci, c'était cela. Ah oui, parce que voilà, il y a des noms qui sont encore dans les patronymes actuels. Hein. Donc, je citerai par exemple Lucien Poc, qui était bijoutier à Lourdes il y a pas longtemps, qui est, je crois, à la retraite. Mais moi, le Lucien Poc que je connais de par mes recherches, il a vécu aux alentours des années 1900, et il effrayait la chronique à l'époque, parce qu'il paraît qu'il avait un humour ravageur. Sur scène, il faisait plier de rire toute la petite cité de Lourdes. Il y a déjà des articles de journaux dithyrambiques à son égard. Donc voilà, donc peut-être j'aimerais bien retrouver ou des photos, ou des documents, ou enfin, il y a certainement des choses qui peuvent remonter. Et puis une photo qui me tient à cœur aussi, celle des Cantadous en 1908 ou 1909, où au milieu des chanteurs, on voit d'abord les enfants, il y avait les pupilles, hein, ils les appelaient les pupilles, donc il n'y a pas que les hommes, il y a les petits, ouais, en costume aussi, hein, tous costumés bien correctement, et puis des dames. Une bonne dizaine ou une bonne douzaine de dames. Donc, il y avait aussi des femmes qui chantaient à cette époque-là. Elles s'appelaient Las Pasturetas de Tlabeda. Et donc, peut-être que parmi ces femmes, qui étaient à l'époque assez jeunes, quoi, hein, quand même, donc il y a peut-être des grands-mères ou des arrière-grands-mères de gens qui vont pouvoir nous dire « Ah, mais je la connais, c'était mon arrière-grand-mère, elle a fait ceci, elle a fait... » Voilà.
D'accord.
Est-ce qu'on peut peut-être faire remonter un peu de la mémoire locale, d'une façon que je trouve très joyeuse, très pacifique, très, très... Voilà, très...
150 ans d'histoire, les chanteurs montagnards, eh bien, écoutez, vont fêter cet anniversaire avec beaucoup de brio, avec ce spectacle musical, ce spectacle création, hein, on ne trouve pas encore tout à fait les termes pour définir ce que vous êtes en train de faire. On va saluer le travail des chanteurs montagnards d'aujourd'hui, de ceux de 2014,
oui, s'investissent beaucoup.
Qui s'investissent dans le théâtre, dans le, bon, d'après ce que j'ai entendu, moi, dans les coulisses, ça se passe avec beaucoup de
plaisir.
De plaisir, ouais, et qu'ils ne vont pas vous lâcher, ils vont encore vous garder, vous aviez toujours peur de savoir si la corde n'allait pas casser, parce que
oui, non, ça c'est une crainte que j'ai quand même. C'est vrai que parce que c'est quand même des sociétés d'amateurs, c'est-à-dire que qui fonctionnent à un rythme qui leur est propre, quoi. On peut, ouais, pas demander à un amateur un investissement trop important. Sans ça, on va créer des déséquilibres, on va peut-être lui gâcher son plaisir. Mais c'est vrai que la tentation est tellement grande de réussir ce spectacle que je crois que l'un dans l'autre, tout le monde va s'y retrouver.
Voilà. Ouais. Et puis il faut aussi gérer le quotidien. Hein, c'est-à-dire que les chanteurs montagnards sont aussi en concert,
et donc
il faut aussi gérer les chants pour un concert futur, et puis ne pas mettre trop de côté le spectacle, ou ne pas faire trop de spectacles et pas assez de ce qu'ils aiment faire aussi, c'est chanter et se produire sur scène. Donc vous essayez de ménager la chèvre, le chou, et en bonne intelligence. On va saluer tous les chanteurs montagnards qui nous écoutent, on va leur souhaiter bon succès. J'espère qu'on aura l'occasion à la rentrée prochaine en septembre que vous reveniez bien sûr avec peut-être certains chanteurs montagnards pour bien sûr nous on sera là pour vous, aider à faire la promotion de ce spectacle.
Alors on va essayer périodiquement de attirer de nouveau un peu l'attention sur cette opération pour qu'effectivement au moment où elle se passe tout le monde soit préparé, parce que c'est vrai que la communication est toujours aussi un souci assez compliqué parce que c'est long à ce que tout le monde prenne conscience des... Voilà. Et on n'aimerait pas que les gens nous disent « Ah bah zut, si on avait su, on serait venu ».
C'est notre histoire, voilà, c'est notre histoire qui va se jouer à l'espace Robert Hossein le 3 et le 4 octobre prochain. Merci beaucoup, Laurent Chenot, d'être venu jusqu'à nos micros.
Merci à vous.
Vous êtes toujours quelqu'un de très intéressant. Merci, à très bientôt, bonne répétition, bon courage, et puis on se revoit très rapidement.
Merci, à bientôt.
Présence.
Le grand témoin. Présence à Saint-Gaudens, 94.1.
Voici les titres de l'actualité du jour. La météo est décidément bien capricieuse. Après les épisodes de pluie, inondations, grandes marées et autres vagues submersions, c'est en montagne que le temps fait des siennes. Météo France évoque un risque d'avalanche fort de 4. Cet avis est valable pour les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Élection, la Nouvelle République des Pyrénées fait mention d'une rumeur selon laquelle le conseiller économique de François Hollande, Emmanuel Macron, aurait choisi de se présenter pour les prochaines élections législatives dans les Hautes-Pyrénées. À Pau, David Habib, le candidat socialiste à la mairie, a présenté un nouveau projet pour les Halles. Il propose de construire un nouveau site sur l'emplacement de l'actuel carreau des producteurs. Réaction immédiate de son principal concurrent, François Bayrou, voilà une offense au caractère historique et chaleureux de la ville. C'est vendredi 7 février prochain que les chambres de commerce et d'industrie de Tarbes et de Pau organisent conjointement la 3e édition de la Nuit de l'Orientation. L'objectif est de permettre aux collégiens, lycéens et étudiants de définir leurs projets professionnels. A noter sur vos agendas que le Festival de musique de Lourdes offrira 3 dates cette année, les 15, 20 et 21 avril. Le rendez-vous phare aura lieu le 15 avril à 21h à l'espace Robert Hossein avec la venue de la cantatrice Barbara Hendrix.
Présence.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Rapport sévère du comité de l'ONU sur les droits de l'enfance contre le Vatican. L'Église est sommée de relever immédiatement de ses fonctions toute personne suspectée d'abus sexuels. Des mots durs. Nous entendrons la réponse de Mgr Tomasi, l'observateur permanent du Saint-Siège à Genève. Audience générale, le pape François est revenu sur le sacrement de l'Eucharistie et sur l'importance d'aller à la messe le dimanche. Retour jeudi d'un ambassadeur d'Égypte près le Saint-Siège. Il présentera ses lettres de créance au pape François. Les évêques suisses ont rendu publiques les réponses à leur questionnaire sur la famille. Une matière à nourrir la réflexion des pères synodaux qui se retrouveront à Rome en octobre prochain pour traiter de la famille. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Le Vatican est donc sommé de relever